Étienne Bonneau de Condillac, Traité des sensations, partie 1, des sens qui par eux-mêmes ne jugent pas des objets extérieurs. Chapitre 4, des idées d'un homme borné au sens de l'odorat. La statue a des idées de contentement et de mécontentement. Notre statue ne peut être successivement de plusieurs manières, dont les unes lui plaisent et les autres lui déplaisent, sans remarquer qu'elle passe tour à tour par un état de plaisir et par un état de peine. Avec les unes, c'est contentement, jouissance. Avec les autres, c'est mécontentement, souffrance. Elle conserve donc dans sa mémoire les idées de contentement et de mécontentement communes à plusieurs manières d'être. Et elle n'a plus qu'à considérer ses sensations sous ces deux rapports pour en faire deux classes où elle apprendra à distinguer des nuances à proportion qu'elle s'y exercera davantage. Ces idées sont abstraites et générales. Abstraire, c'est séparer une idée d'une autre, à laquelle elle paraît naturellement unie. Or, en considérant que les idées de contentement et de mécontentement sont communes à plusieurs de ces modifications, elle contracte l'habitude de les séparer de telles modifications particulières, dont elle ne l'avait pas d'abord distinguée, elle s'en fait donc des notions abstraites, et ces notions deviennent générales, parce qu'elles sont communes à plusieurs de ces manières d'être. Une odeur n'est pour la statue qu'une idée particulière, mais lorsqu'elle sentira successivement plusieurs fleurs de même espèce, elle éprouvera toujours une même manière d'être, et elle n'aura à ce sujet qu'une idée particulière. L'odeur de violette, par exemple, ne saurait être pour elle une idée abstraite, commune à plusieurs fleurs, puisqu'elle ne sait pas qu'il existe des violettes. Ce n'est donc que l'idée particulière d'une manière d'être qui lui est propre. Par conséquent, toutes ces abstractions se bornent à des modifications plus ou moins agréables, et à d'autres plus ou moins désagréables. Comment le plaisir en général devient l'objet de sa volonté? Lorsqu'elle n'avait que des idées particulières, elle ne pouvait désirer que telle ou telle manière d'être. Mais aussitôt qu'elle a des notions abstraites, ses désirs, son amour, sa haine, son espérance, sa crainte, sa volonté, peuvent avoir pour objet le plaisir ou la peine en général. Cependant, cet amour du bien en général n'a lieu que lorsque, dans le nombre d'idées que la mémoire lui retrace confusément, elle ne distingue pas encore ce qui doit lui plaire davantage. Mais dès qu'elle croit l'apercevoir, alors tous ses désirs se tournent vers une manière d'être en particulier. Elle a des idées de nombre. Puisqu'elle distingue les états par où elle passe, elle a quelque idée de nombre. Elle a celle de l'unité, toutes les fois qu'elle éprouve une sensation ou qu'elle s'en souvient, et elle a les idées de deux et de trois, toutes les fois que sa mémoire lui rappelle deux ou trois manières d'être distinctes. Car elle prend alors connaissance d'elle-même comme étant une odeur ou comme en ayant été deux ou trois successivement. Elle ne les doit qu'à sa mémoire. Elle ne peut pas distinguer deux odeurs qu'elle sent à la fois. L'odorat par lui-même ne saurait donc lui donner que l'idée de l'unité, et elle ne peut tenir les idées des nombres que de la mémoire. Jusqu'où elle peut les étendre? Mais elle n'étendra pas bien loin ses connaissances à ce sujet. Ainsi qu'un enfant, qui n'a pas appris à compter, elle ne pourra pas déterminer le nombre de ses idées lorsque la succession en aura été un peu considérable. Il me semble que, pour découvrir la plus grande quantité qu'elle est capable de connaître distinctement, il suffit de considérer jusqu'où nous pourrions nous-mêmes compter avec le signe 1. Quand les collections formées par la répétition de ce mot ne pourront pas être saisies tout à la fois d'une manière distincte, nous serons en droit de conclure que les idées précises des nombres qu'elles renferment ne peuvent pas s'acquérir par la seule mémoire. Or, en disant 1 et 1, j'ai l'idée de 2, et en disant 1, 1 et 1, j'ai l'idée de 3. Mais si je n'avais pour exprimer 10, 15, 20, que la répétition de ce signe, je n'en pourrais jamais déterminer les idées, car je ne saurais m'assurer par la mémoire d'avoir répété un autant de fois que chacun de ces nombres le demande. Il me paraît même que je ne saurais par ce moyen me faire l'idée de 4, et que j'ai besoin de quelque artifice pour être sûr de n'avoir répété ni trop ni trop peu le signe de l'unité. Je dirais par exemple 1, 1, et puis 1, 1, mais cela seul prouve que la mémoire ne saisit pas distinctement 4 unités à la fois. Elle ne présente donc au-delà de 3 qu'une multitude indéfinie. Ceux qui croiront qu'elle peut seule étendre plus ou moins nos idées substitueront un autre nombre à celui de 3. Il suffit, pour les raisonnements que j'ai à faire, de convenir qu'il y en a un au-delà duquel la mémoire ne laisse plus apercevoir qu'une multitude tout à fait vague. C'est l'art des signes qui nous a appris à porter la lumière plus loin. Mais quelque considérables que soient les nombres que nous pouvons démêler, il reste toujours une multitude qu'il n'est pas possible de déterminer, qu'on appelle par cette raison l'infini, et qu'on eût bien mieux nommé l'indéfini. Ce seul changement de nom eût prévenu des erreurs. Nous pouvons donc conclure que notre statue n'embrassera distinctement que jusqu'à trois de ses manières d'être. Au-delà, elle enverra une multitude, qui sera pour elle ce qu'est la notion prétendue de l'infini pour nous. Elle sera même plus excusable de s'y méprendre, car elle est incapable des réflexions qui pourraient la tirer d'erreur. Elle apercevra donc l'infini dans cette multitude comme s'il y était en effet. Enfin, nous remarquerons que son idée de l'unité est abstraite, car elle sent toutes ses manières d'être sous ce rapport général que chacune est distinguée de toute autre. Elle connaît deux sortes de vérités. Comme elle a des idées particulières et des idées générales, elle connaît deux sortes de vérités. Des vérités particulières. Les odeurs de chaque espèce de fleur ne sont pour elle que des idées particulières. Il en sera donc de même de toutes les vérités qu'elle aperçoit lorsqu'elle distingue une odeur d'une autre. Des vérités générales. Mais elle a les notions abstraites de manière d'être agréable et de manière d'être désagréable. Elle connaîtra donc à ce sujet des vérités générales. Elle saura qu'en général, ces modifications diffèrent les unes des autres et qu'elles lui plaisent ou déplaisent plus ou moins. Mais ces connaissances générales supposent en elles des connaissances particulières, puisque les idées particulières ont précédé les notions abstraites. Elle a quelque idée du possible. Comme elle est dans l'habitude d'être, de cesser d'être et de redevenir la même odeur, elle jugera, lorsqu'elle ne l'est pas, qu'elle pourra l'être, lorsqu'elle l'est, qu'elle pourra ne l'être plus. Elle aura donc occasion de considérer ses manières d'être comme pouvant exister ou ne pas exister. Mais cette notion du possible ne portera point avec elle la connaissance des causes qui peuvent produire un effet. Elle en supportera au contraire l'ignorance et elle ne sera fondée que sur un jugement d'habitude. Lorsque la statue pense qu'elle peut, par exemple, cesser d'être odeur de rose et redevenir odeur de violette, elle ignore qu'un être extérieur dispose uniquement de ses sensations. Pour qu'elle se trompe dans son jugement, il suffit que nous nous proposions de lui faire sentir continuellement la même odeur. Il est vrai que son imagination y peut quelquefois suppléer, mais ce n'est que dans les occasions où les désirs sont violents. Encore même, n'y réussit-elle pas toujours. Peut-être encore de l'impossible. Peut-être pourrait-elle, d'après ses jugements d'habitude, se faire aussi quelque idée de l'impossible. Accoutumée à perdre une manière d'être, aussitôt qu'elle en acquiert une nouvelle, il est impossible, suivant sa manière de concevoir, qu'elle en ait deux à la fois. Le seul cas où elle croirait le contraire, ce serait celui où son imagination agirait avec assez de force pour lui retracer deux sensations avec la même vivacité que si elle les éprouvait réellement. Mais cela ne peut guère arriver. Il est naturel que son imagination se conforme aux habitudes qu'elle s'est faites. Ainsi, n'ayant éprouvé ses manières d'être que l'une après l'autre, elle ne les imaginera que dans cet ordre. D'ailleurs, sa mémoire n'aura pas vraisemblablement assez de force pour lui rendre présentes deux sensations qu'elle a eues et qu'elle n'a plus. Mais ce qui me paraît plus probable, c'est que si l'habitude, où elle est de juger que ce qui lui est arrivé peut lui arriver encore, renferme l'idée du possible. Il est bien difficile qu'elle ait l'occasion de former des jugements où nous puissions retrouver l'idée que nous avons de l'impossible. Il faudrait pour cela qu'elle s'occupât de ce qu'elle n'a pas encore éprouvé, mais il est bien plus naturel qu'elle soit tout entière à ce qu'elle éprouve. Elle a l'idée d'une durée passée. Du discernement qui se fait en elle des odeurs naît une idée de succession, car elle ne peut sentir qu'elle cesse d'être ce qu'elle était sans se représenter dans ce changement d'une durée de deux instants. Comme elle n'embrasse d'une manière distincte que jusqu'à trois odeurs, elle ne démêlera aussi que trois instants dans sa durée. Au-delà, elle ne verra qu'une succession indéfinie. Si l'on suppose que la mémoire peut lui rappeler distinctement jusqu'à quatre, cinq ou six manières d'être, elle distinguera en conséquence, 4, 5, 6 instants dans sa durée. Chacun peut faire à ce sujet les hypothèses qu'il jugera à propos et les substituer à celles que j'ai cru devoir préférer. D'une durée à venir, le passage d'une odeur à une autre ne donne à notre statue que l'idée du passé. Pour en avoir une de l'avenir, il faut qu'elle ait eu à plusieurs reprises la même suite de sensations et qu'elle se soit fait une habitude de juger qu'après une modification, une autre doit suivre. Prenons pour exemple cette suite, jonquille, rose, violette. Dès que ces odeurs sont constamment liées dans cet ordre, une d'elles ne peut affecter son organe qu'aussitôt la mémoire ne lui rappelle les autres dans le rapport où elles sont à l'odeur sentie. Ainsi qu'à l'occasion de l'odeur de violette, les deux autres se retraceront comme ayant précédé et qu'elle se représentera une durée passée. De même, à l'occasion de l'odeur de jonquille, celles de rose et de violette se retraceront comme devant suivre et elle se représentera une durée à venir, d'une durée indéterminée. Les odeurs de jonquille, de rose et de violette peuvent donc marquer les trois instants qu'elle aperçoit d'une manière distincte. Par la même raison, les odeurs qui ont précédé et celles qui sont dans l'habitude de suivre marqueront les instants qu'elle aperçoit confusément dans le passé et dans l'avenir. Ainsi, lorsqu'elle sentira une rose, sa mémoire lui rappellera distinctement l'odeur de jonquille et celle de violette, et elle lui représentera une durée indéfinie qui a précédé l'instant où elle sentait la jonquille et une durée indéfinie qui doit suivre celui où elle sentira la violette. Cette durée est pour elle une éternité. Apercevant cette durée comme indéfinie, elle n'y peut démêler ni commencement ni fin, elle n'y peut même soupçonner ni l'un ni l'autre. C'est donc à cet égard une éternité absolue, et elle se sent comme si elle eût toujours été et qu'elle ne dût jamais cesser d'être. En effet, ce n'est point la réflexion sur la succession de nos idées qui nous apprend que nous avons commencé et que nous finirons. C'est l'attention que nous donnons aux êtres de notre espèce que nous voyons naître et périr. Un homme qui ne connaîtrait que sa propre existence n'aurait aucune idée de la mort. Il y a en elle deux successions. L'idée de la durée d'abord produite par la succession des impressions qui se font sur l'organe, se conserve ou se reproduit par la succession des sensations que la mémoire rappelle. Ainsi, lors même que les corps odoriférants n'agissent plus sur notre statut, elle continue de se représenter le présent, le passé et l'avenir. Le présent par l'état où elle se trouve, le passé par le souvenir de ce qu'elle a été, l'avenir parce qu'elle juge qu'ayant eu à plusieurs reprises les mêmes sensations, elle peut les avoir encore. Il y a donc en elle deux successions, celle des impressions faites sur l'organe et celle des sensations qui se retracent à la mémoire. L'une de ces successions mesure les moments de l'autre. Plusieurs impressions peuvent se succéder dans l'organe pendant que le souvenir d'une même sensation est présent à la mémoire, et plusieurs sensations peuvent se retracer successivement à la mémoire pendant qu'une même impression se fait éprouver à l'organe. Dans le premier cas, la suite des impressions qui se font à l'odorat mesure la durée du souvenir d'une sensation. Dans le second, la suite des sensations qui s'offrent à la mémoire mesure la durée de l'impression que l'odorat reçoit. Si, par exemple, lorsque la statue sent une rose, elle se rappelle les odeurs de tubéreuse, de jonquille et de violette, c'est à la succession qui se passe dans la mémoire qu'elle juge de la durée de sa sensation. Et si, lorsqu'elle se retrace l'odeur de rose, je lui présente rapidement une suite de corps odoriférants, c'est à la succession qui se passe dans l'organe qu'elle juge de la durée du souvenir de cette sensation. Elle aperçoit donc qu'il n'est aucune de ces modifications qui ne puisse durer. La durée devient un rapport sous lequel elle les considère toutes en général, et elle s'en fait une notion abstraite. Si dans le temps qu'elle sent une rose, elle se rappelle successivement les odeurs de violette, de jasmin et de lavande, elle s'apercevra comme une odeur de rose qui dure trois instants, et si elle se retrace une suite de 20 odeurs, elle s'apercevra comme étant odeur de rose depuis un temps indéfini. Elle ne jugera plus qu'elle ait commencé de l'être, elle croira l'être de toute éternité. L'idée de durée n'est pas absolue. Il n'y a donc qu'une succession d'odeurs transmises par l'organe ou renouvelées par la mémoire qui puisse lui donner quelque idée de durée. Elle n'aurait jamais connu qu'un instant si le premier corps odoriférant eût agi sur elle d'une manière uniforme, pendant une heure, un jour ou davantage, ou si son action eût varié par des nuances si insensibles qu'elle n'eût pu les remarquer. Il en sera de même si, ayant acquis l'idée de durée, elle conserve une sensation, sans faire usage de sa mémoire, sans se rappeler successivement quelques-unes des manières d'être par où elle a passé. Car à quoi y distinguerait-elle des instants? Et si elle n'en distingue pas, comment en apercevra-t-elle la durée? L'idée de la durée n'est donc point absolue, et lorsque nous disons que le temps coule rapidement ou lentement, cela ne signifie autre chose, sinon que les révolutions qui servent à le mesurer se font avec plus de rapidité ou avec plus de lenteur que nos idées ne se succèdent. On peut s'en convaincre par une supposition. Supposition qui le rend sensible. Si nous imaginons qu'un mode composé d'autant de parties que le nôtre ne fût pas plus gros qu'une noisette, il est hors de doute que les astres s'y lèveraient et s'y coucheraient des milliers de fois dans une de nos heures et qu'organisés, comme nous le sommes, nous n'en pourrions pas suivre les mouvements. Il faudrait donc que les organes des intelligences destinées à l'habiter fussent proportionnés à des révolutions aussi subites. Ainsi, pendant que la Terre de ce petit monde tournera sur son axe et autour de son Soleil, ses habitants recevront autant d'idées que nous en avons pendant que notre Terre fait de semblables révolutions. Dès lors, il est évident que leurs jours et leurs années leur paraîtront aussi longs que les nôtres nous le paraissent. En supposant un autre monde auquel le nôtre serait aussi inférieur qu'il est supérieur à celui que je viens de feindre, il faudrait donner à ses habitants des organes dont l'action serait trop lente pour apercevoir les révolutions de nos astres. Ils seraient, par rapport à notre monde, comme nous par rapport à ce monde gros comme une noisette. Ils n'y sauraient distinguer aucune succession de mouvements. Demandons enfin aux habitants de ces mondes quelle en est la durée. Ceux du plus petit compteront des millions de siècles, et ceux du plus grand, ouvrant à peine les yeux, répondront qu'ils ne font que de naître. La notion de la durée est donc toute relative. Chacun n'en juge que par la succession de ses idées, et vraisemblablement, il n'y a pas deux hommes qui, dans un temps donné, comptent un égal nombre d'instants. Car il y a lieu de présumer qu'il n'y en a pas deux dont la mémoire retrace toujours les idées avec la même rapidité. Par conséquent, une sensation qui se conservera uniformément pendant un an ou mille si l'on veut, ne sera qu'un instant à l'égard de notre statut, comme une idée que nous conservons pendant que les habitants du petit monde comptent des siècles est un instant pour nous. C'est donc une erreur de penser que tous les êtres jugent également de la durée et comptent le même nombre d'instants. La présence d'une idée, qui ne varie point, n'étant qu'un instant à notre égard, c'est une conséquence que tous les moments de notre durée nous paraissent égaux, mais ce n'est pas une preuve qu'ils le soient.